Et donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et vous êtes donc dans une émission de Zoom Écologie où l'équipe du deuxième jeudi de chaque mois, ça démange, vous parle aujourd'hui du courant anti-industriel. Et donc dans une première partie, on a tenté de vous dire voilà, qu'est-ce qu'on avait trouvé d'intéressant dans ce courant. Et maintenant on voudrait revenir, pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui on voudrait apporter un regard critique sur ce courant, et pourquoi est-ce qu'on s'y est réintéressé? Et en fait, je dirais qu'il y a eu deux moments peut-être clés où on s'y est réintéressé, et plus généralement, je pense, le reste de la critique sociale, et notamment dans le mouvement écologiste, mais plus largement dans le camp de l'émancipation sociale, comme tu disais, s'y est réintéressé. En 2015, il y a eu ce que des féministes ont appelé très justement le coming out masculiniste de pièces et main-d'œuvre. Et en plus, c'est un peu la même année aussi où voilà, ils ont sorti des textes queerphobe, transphobe et aussi islamophobe d'ailleurs, après les attentats de novembre 2015. Donc, il y a eu aussi l'affaire Escudero, sur laquelle on n'a pas forcément le temps de revenir. Et puis, un deuxième moment qui a été très important et là qui est beaucoup plus proche de nous, c'est évidemment c'est le moment de la pandémie de coronavirus. Et là, on a vu en particulier chez certains anti-industriels et notamment les éditions La Lenteur et Mathieu Amièche, pour ne pas le citer, disons ce qu'on pourrait appeler une sorte de covido-négationnisme ou de covido-relativisme. Alors, soit de penser que finalement le Covid était une sorte de grippette qui finalement était montée en épingle pour d'obscurs motifs de pouvoir, de prise de pouvoir, d'accroissement du pouvoir de la technocratie, soit des positions relativistes qui ne niaient pas complètement la pandémie mais qui disaient que c'était principalement un prétexte pour l'accroissement du pouvoir de cette technocratie. Évidemment, c'est des positions d'une part le coming out masculiniste, islamophobe, transphobe, etc., qui ne sont pas propres au courant anti-industriel. On retrouve à l'extrême gauche et à la gauche d'autres courants, d'autres individus, d'autres groupes qui portent ces positions. Et bien sûr que les positions covid-négationnistes et relativistes ne sont pas que propres au courant anti-industriel. On peut penser notamment à Julien Coupa, pour ne pas le citer, et son manifeste conspirationniste. Donc, en fait, ce qu'on voudrait dire dans cette partie, c'est en fait que pour nous, ces problèmes, même si on a l'impression que c'est deux choses très différentes, d'une part, la transphobie et le masculinisme et le virilisme de pièces et main d'œuvre, et d'autre part, cette négation ou cette relativisation du Covid, pour nous, ça procède d'une même logique qui, à mon avis, est un petit peu une sorte à la racine un peu de ce problème et aussi à la racine de la pensée anti-industrielle. C'est une sorte de fétichisation du corps naturel, du corps viril et du corps valide. Alors, j'ai peut-être précisé du coup d'emblée qu'est-ce que ça veut dire la fétichisation, qu'est-ce qu'on peut entendre par fétichisation. En fait, l'idée, donc fétichisation, ça vient donc de fétiche et ça vient du portugais fetichao. Je prononce très mal, excusez-moi. L'idée, donc, c'est un concept donc qui veut dire étymologiquement un artefact. Et en fait, l'idée de ça, c'est un concept qui a été développé par des missionnaires portugais il y a plusieurs siècles, au moment de la colonisation. Et en fait, c'était un concept pour se moquer, entre guillemets, des populations qui attribuaient des pouvoirs autonomes et surnaturels, des pouvoirs de domination, à des objets inanimés, comme des totems, par exemple, etc. Et donc, dans l'idée de la fétichisation, il y a l'idée aussi, dans ce cas, d'une pensée qui extrait certaines choses, notamment là en l'occurrence le corps, des rapports sociaux, comme si le corps, les corps humains, étaient simplement des entités naturelles, extrasociales. Et en l'occurrence, dans cette idée de fétichisation du corps dans le courant anti-industriel, il y a l'idée réaffirmé par pièces et main d'œuvre que voilà, il y a les hommes, les femmes, voilà, on est déterminé biologiquement une fois pour toutes à être l'un ou l'autre, peu importe, disons, les intersexes. L'idée que on serait finalement, nos identités de genre seraient réductibles uniquement à une dimension purement biologique. Et après, sur la dimension, évidemment, qu'on peut penser sur la dimension, disons, valide, il y a l'idée qu'on a vu au moment du Covid, que finalement, entre guillemets, le Covid, c'était une maladie qui allait avant tout affecter les faibles, les immunodéprimés, qui certes sont vus un peu de manière misérabiliste comme voilà, des victimes de la civilisation industrielle qui sont voilà, victimes de ces ravages, mais d'une certaine manière, voilà, un petit peu, bon, bah, tant pis pour eux, quoi. C'est-à-dire, bon, en fait, tant pis pour eux, y a des individus qui sont sains, qui sont forts, qui sont des individus naturels, entre guillemets, qui ont bien mangé bio, qui vivent à la campagne, voilà. Et après, il y a, entre guillemets, presque, on va dire, les déchets, entre guillemets, de la civilisation industrielle, que, bon, même si c'est un petit peu triste, il faut bien abandonner à leur sort, parce que sinon, c'est faire le jeu de la méga-machine scientifique, technoscientifique.
Tout à fait. En fait, peut-être, moi, quand on a préparé cette émission, j'ai reparcouru cette littérature un peu à rebrousse-poil, finalement, puisque je me suis rendu compte que des gens que j'avais lus avec un certain intérêt, un certain plaisir, tenaient des positions qui étaient complètement opposées par rapport à celles que j'avais. Il y avait une vraie dissonance, et donc je me suis demandé, est-ce que, en gros, est-ce que le ver est dans le fruit, ou est-ce que c'est une évolution malheureuse qui fait que voilà, nos chemins se séparent, et puis bon vent, quoi. Et c'est vrai que sur cette notion du corps, quand j'ai relu un certain nombre de textes, il y a cette idée que la modernité rend le corps faible, crée des handicaps. Donc finalement, cette idée, donc il y aurait une espèce de corps qui flotte, et puis tout n'est qu'affaiblissement, ça nous rend les écrans nous rendent stupides, le cancer c'est une maladie de la modernité. Et on a envie de dire, et donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se soigner du cancer? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et donc le cas du Covid a été particulièrement marquant, en effet, avec les textes donc Mathieu Amièche, Pierre Bourlier, le collectif Écran Total, etc., qui ont sorti des textes. Bon, on va pas leur faire plus de publicité que ça, et il y a beaucoup de ressources, hein. Donc l'émission Sortir du capitalisme a fait pas mal d'émissions autour du Covid, il y a le collectif Cabriole aussi qui a fait beaucoup d'analyses par rapport à ça, il y a eu des textes dans Jeff Clack, donc un certain nombre de personnes ont pris position, mais ce qui m'a marqué dans la crise du Covid, c'est que finalement, c'était une analyse idéologique, un peu autoréférentiel, c'est-à-dire qu'il y avait la grille de lecture, il y a une emprise gestionnaire sur le monde, il y a une numérisation du monde, etc. Donc tout a été analysé à ce prisme-là. Et de toute façon, le monde nous rend faible, donc bon, voilà, c'est un ravage de plus ou un ravage de moins, ce qui fait que ça minimise complètement l'épidémie. Et en plus, il y a eu un recours, alors là, ça, pour le coup, j'ai jamais compris, à des figures en blouse blanche comme Raoult ou autre, hein, dans les textes de Mathieu Amièche, des espèces de scientifiques alternatifs complètement désavoués par toute la communauté scientifique. Donc un rapport à la science qui était finalement très curieux, quoi. Donc plein de choses qui n'allaient pas là-dedans. Mais bon, ça, beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'aimerais revenir sur plutôt les positions peut-être transphobes et masculinistes, parce qu'en fait, j'étais passé à côté, je suis allé voir les brochures de Pièces et Main d'œuvre. Alors, Pièces et Main d'œuvre, ils ont commis une brochure qui s'appelle « Ceci n'est pas une femme sur les tordus queer », avec en dessous le tableau de l'origine du monde, pour bien rappeler que si on a une vulve, on est une femme, et qu'il n'y a pas d'intersexe, il n'y a pas de transgenre, etc. Avec toute une assimilation des trans au transhumanisme, c'est-à-dire l'augmentation du corps humain par la technologie, une dénonciation donc, de la prise d'hormones, etc. Et en fait, qui est complètement invisible. Alors, je ne suis pas forcément bien placé pour en parler, mais en tout cas, à ce qu'est l'expérience trans dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, j'invite pas forcément les auditeurs et les auditrices à lire la brochure de Pièces et Main d'œuvre. Par contre, il y a une brochure qui est intéressante, qui s'appelle « Trans n'est pas transhumanisme », qui essaye d'allier discours anti-tech et aussi en partant de l'expérience trans, de la transition, etc. Et qui rappelle aussi que l'expérience trans, c'est aussi une violence par rapport à la médecine, qui à la naissance peut réassigner un genre, qui a fait que c'était une pathologie psychiatrique jusqu'à très récemment. Donc en fait, voilà, c'est un discours qui est passé complètement à côté de tout ça et qui en plus marche complètement sur les camarades féministes et sur les gens à ce niveau-là. Et en fait, alors PMO a pris position là-dessus. Le milieu anti-tech n'est pas forcément désolidarisé, donc on est en droit de se demander ce qu'ils en pensent, si ça les intéresse ou pas. Mais c'est aussi que dans le milieu écologique, on voit des textes qui sortent de personnes LGBTQI, etc., qui s'intègrent dans ce milieu-là et qui cherchent à trouver une place dans les luttes écologiques. Donc je pense notamment, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle « Écologie déviante, voyage en terre queer » par Si le Cerf Maupois. Qui essaye d'expliquer un peu justement ce que c'est d'arriver dans un milieu écolo où il y a des figures. Alors bon, il y a PMO qui est minoritaire, mais on peut penser à Pierre Rabhi par exemple, qui était aussi, il y a les hommes, il y a les femmes. Enfin, dans le milieu écolo, il y a plein de positions comme ça qui sont invisibles et qui sont, il y a le corps naturel. Et puis, et à partir de là, ça oppresse un certain nombre de minorités qui aussi ne prennent pas part finalement au combat écologique, et il y a un champ de bataille, encore une fois, à l'intérieur de l'écologie, porté par des féministes, des personnes queer, des lesbiennes, etc., pour essayer de faire exister ces problématiques. Et il y a vraiment tout un champ de l'écologie complètement réactionnaire, qui va même, il faut peut-être rappeler aussi que Élu les Charbonneaux, c'est des gens qui alimentent autant les anti-industriels, entre guillemets, de gauche, que des revues comme Limite, etc., qui sont liées à l'écologie intégrale de droite. Enfin voilà, il y a vraiment plein de problématiques par rapport à ça.
Oui, et d'ailleurs, il faut rappeler aussi que Jacques Ellul, qui est presque un petit peu le père fondateur du courant anti-industriel, effectivement, il a tenu effectivement des discours explicitement réactionnaires à plusieurs moments de sa vie, mais notamment dans les années 80, où il a qualifié le sida de punition de Dieu contre les homosexuels. Donc, on voit que il y a derrière la critique de la technique, lorsqu'elle est faite au nom de la nature. Peut se cacher en fait aussi une sorte de défense de l'ordre social tel qu'il est, notamment de l'ordre social de genre, et aussi de l'ordre social validiste d'une certaine manière, du fait que voilà, d'une sorte de mépris des faibles, des immunodéprimés, des handicapés, etc. Et c'est en fait, voilà, c'est la critique anti-industrielle parfois procède par une naturalisation des corps qui doivent rester d'une certaine manière figés dans une supposée essence naturelle. Il y a les hommes, il y a les femmes, etc. Ce qui ne correspond pas forcément à la réalité biologique, et surtout qui nie, et ça je pense que c'est vraiment essentiel, qui nie le fait que bah, en fait, il y a une autonomie aussi des êtres humains à s'autodéterminer, à créer d'autres rapports sociaux, d'autres identités sociales, et que ces identités sociales, soi-disant naturelles, d'hommes et femmes, sont largement construites socialement, puisque on voit pas trop en quoi est-ce que tout le pan de la vie sociale devrait nécessairement découler, je veux dire, en termes de rôle, en termes de traits de caractère, etc., simplement d'organes génitaux à la naissance. On voit bien qu'il y a évidemment une certaine absurdité à défendre cet ordre social pseudo-naturel. Et évidemment, tout ça amène, en fait, et ça, je pense que c'est essentiel de le comprendre aujourd'hui dans les luttes écologistes, amène, en fait, à diviser la lutte écologiste en privant la lutte écologiste, en fait, de la participation par leur exclusion et leur oppression dans le cadre du mouvement écologiste, de quand même une partie majeure de la population, parce que, bon, bah, évidemment, si on inclut les femmes qui voilà, sont aussi visées par certains discours, quand on lit Pièces et Main d'œuvre, on voit bien qu'il y a une certaine vision des femmes relativement réactionnaire qui est sous-jacente. Et évidemment, c'est sûr qu'en reproduisant ce type de discours, ce type d'analyse dans les luttes sociales, en blâmant les femmes, en allant jusqu'à, il faut bien le dire, dans les milieux industriels, il y a parfois une remise en cause du droit à l'avortement, au nom d'une critique de la médecine, mais finalement, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus dans la troisième partie, mais le fait de critiquer la technique, ou certaines techniques, enfin en tout cas la technologie moderne, au nom de la nature, ça veut dire aussi que, plutôt que de critiquer la technologie moderne au nom des besoins des êtres humains, au nom de leurs désirs, au nom de leur autonomie, tout ça en prenant en compte évidemment la soutenabilité écologique de ces technologies, le fait de penser uniquement est-ce que ce sont des techniques qui sont naturelles ou pas, même si c'est évidemment quelque chose qui, quand on y pense, n'a pas de sens, évidemment, ça ne peut qu'amener à des positions réactionnaires qui vont priver le mouvement écologiste, enfin en tout cas une partie du mouvement écologiste, d'une partie de ses forces vives, et qui vont aussi finalement amener l'écologie plutôt, en fait, finalement, enfin, qui vont la rendre plus perméable à une récupération par l'extrême droite, qui, elle, évidemment, la naturalisation de l'ordre social, hein, c'est un petit peu son béaba, quoi. Voilà, les hommes, les femmes, c'est différent, je veux dire, c'est la base de la pensée de l'extrême droite. L'idée que l'ordre social est naturel, c'est vraiment la grande pensée de l'extrême droite. Et du coup, sans dire que le courant anti-industriel est d'extrême droite, ce qu'il n'est pas, mais c'est que en faisant cette critique de la technique et notamment de certaines technologies au nom du corps naturel, en fait, il se prête facilement à une récupération d'extrême droite d'une part, il prive le mouvement écologiste d'autre part d'une partie des forces vives, il reproduit des inégalités, et surtout, en fait, on a envie de dire, il se trompe. C'est-à-dire que la critique de la technique, elle doit être faite au nom, entre guillemets, de l'autonomie des êtres humains, au nom voilà, de leur épanouissement, etc. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi, parfois, c'est aussi le sens voilà, de ce livre « Écologie déviante » où il y a des passages très intéressants sur cette question.
Je vais en lire un bout juste après. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce qu'en effet, bon, c'est se priver de force vive pour le mouvement écologique, mais par exemple pour le Covid, c'est même passer à côté, en niant l'épidémie, tu te prives de toute la possibilité d'analyser comment cette maladie s'incarne socialement, ses racines écologiques, en quoi c'est donc une crise à la fois écologique et sociale, et qui en préfigure d'autres. Et du coup, de manière assez paradoxale, ça devient un point de vue qui est complètement inopérant et qui va pas nous faire avancer très très loin, et qui en plus peut avoir une incidence sur le fait que des personnes en meurent directement puisqu'on ne fait attention à rien. Je voulais juste, pour finir cette partie, peut-être justement ouvrir avec une invitation et lire un petit extrait du livre donc, de Si le cerf maupoie, que je vous encourage à lire, à partager, justement autour de la tension entre le milieu technique, son corps, qu'est-ce que ça fait, et une invitation à penser les choses un peu différemment, en tout cas autrement que ce que font les milieux anti-tech. Donc, je lis donc. Au cours des deux dernières années, la question du soin dans ses diverses acceptations est devenue un motif récurrent. Quelques-unes sont prises dans une tension persistante entre le besoin de s'engager librement dans des parcours de transition et de soins, et d'autre part la pesanteur d'une culture qui articule l'intégrité physique à un ordre naturel, en contradiction avec une prise d'hormones ou de médicaments produits par des grands laboratoires pharmaceutiques. D'autres ressentent la nécessité de pratiquer le soin ou le care collectivement dans les espaces communautaires afin de répondre aux multiples violences qui affectent aujourd'hui notre capacité à vivre et à nous engager dans le monde. Ce motif du soin fait surgir d'autres matérialités, celles de nos corps, façonnés ou soumis par des formes de pouvoir dont l'histoire nous montre le caractère normé et normatif. Dans ce cadre, nos organes sexuels et nos sexualités sont évidemment l'objet d'une attention particulière de la médecine et de la science. Modifiés, transformés ou dopés, avec ou sans coercition, ils deviennent un terrain d'exercice de soins, d'expérimentation de soi, autant qu'un lieu où se révèle toute la violence hétéropatriarcale. Là encore, plutôt que de céder au moralisme sur la bonne naturalité des corps ou à un antitechnicisme primaire, il nous faut reconnaître des formes d'attachement et de transformation complexes. Nous avons évidemment à mesurer et à comprendre comment ces modifications nous affectent, dans quelle mesure, elles s'inscrivent dans une folle aventure de soins et d'enrichissement du vivant ou au contraire dans des logiques de destruction de la vie. Comment alors nous frayer un chemin intime et politique au sein de ces techniques de soins et de transformation du corps, tout en dénonçant les logiques d'exploitation et de destruction des structures qui les développent. Bon, je trouve que c'est une belle problématique, une belle manière d'attaquer le problème.
Oui, et effectivement, en fait, presque on pourrait dire que ce qu'on peut retirer quand même de ce passage, c'est que l'idée, oui, les techniques, la technologie n'est pas neutre, mais effectivement, il y a une certaine ambivalence en fait, du phénomène technique, et que évidemment, par exemple, si on prend l'exemple de la médecine, oui, il y a la médecine moderne n'est pas neutre, mais elle est ambivalente dans le sens où elle n'est pas simplement négative, mortifère, etc., mais qu'elle offre aussi des possibilités de soins qui n'existaient pas avant, même si, évidemment, elle pose aussi des problèmes. Et donc, l'idée d'une sorte de rejet en bloc de la technologie moderne, notamment dans le domaine de la médecine, c'est évidemment une position qui ne fait pas sens si on se place du point de vue justement des besoins et de l'autonomie et de l'épanouissement du vivant, de toutes les formes de vie humaine, Ça ne fait soin que si on est dans une sorte de défense mordicus d'un ordre soi-disant naturel.
Exactement. Et je pense que c'est l'intérêt de cette invitation à partir de la matérialité des corps, c'est-à-dire pas à partir d'un point de vue idéologique sur la technologie ou la médecine ou autre, mais de dire voilà, on a des corps, on a des désirs. Donc là, en l'occurrence, c'est sur la question queer, etc. Mais ça peut être la matérialité du corps malade, la matérialité du corps handicapé avec le Covid. Et qu'est-ce qu'on en fait, en quoi ça nous interroge et comment est-ce qu'on fait que pour avoir un monde qui permette à chacun et chacune d'y vivre sans pour autant perpétuer des systèmes techniques qui sont basés éventuellement sur l'oppression ou l'exploitation de la nature ou des choses comme ça. Donc, mais c'est un chemin de crête qui est complexe, mais qui est une invitation encore à parcourir tout ça.
Oui, et donc on va parler justement du système technique un peu plus général et à mon avis de ce qui pour nous est la mauvaise compréhension du phénomène technique dans une troisième partie de cette émission. Et entre-temps, on va passer on va faire une petite pause musicale avec un morceau de Demain sans faute, Netflix prend le contrôle.